Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, l'essence encore plus chère. Malgré le coup de pouce à la pompe, le gazole flirte avec les 2 euros. Inquiétude de l'exécutif pour les mois qui viennent. Emmanuel Macron motive ses troupes pour les législatives. Message aux candidats à l'image de la présidentielle. Rien n'est gagné, il faut se mobiliser. Les plans de Vladimir Poutine en Ukraine poussés vers l'ouest. Le renseignement américain prédit une guerre qui va s'étendre à la Moldavie. Dernier coup d'œil aux fiches de cour. Coup d'envoi demain des épreuves de spécialité du bac, les premières du genre après le Covid. La Ligue des Champions, nouvelle formule. L'UEFA donne son feu vert. Plus de matchs, beaucoup plus de matchs. Explication en fin de journal. Le temps demain restera estival avec toujours des températures élevées pour la saison. L'invité éco, je recevrai tout à l'heure le patron des restaurants KFC qui veulent doubler leurs achats de viande française. Et puis juste avant la libre antenne, les unes de la presse demain matin.
Europe 1.
L'accalmie n'aura pas duré. À l'heure de faire le plein d'essence, les prix des carburants repartent à la hausse. Le gazole frôle à nouveau les 2 euros le litre. 1,94 € en moyenne, c'est donc 6 centimes de plus en une semaine. Et ça passe mal, Charles Guyard, vous l'avez constaté, dans une station-service près de Nantes.
Oui, en effet, exemple avec Cécilia, elle vient de raccrocher le pistolet après avoir mis seulement quelques litres de gazole, manière de ne pas payer trop d'un coup.
En fait, au lieu de faire un gros plein, je fais que des petits pleins. C'est moins douloureux, mais si vous pouvez redescendre un peu, ce serait bien.
Baisser les prix, c'est précisément ce qu'avait fait le gouvernement avec son coup de pouce de 15 centimes par litre instauré. Et cela fait sourire Daniel le 1er avril.
Ah bah oui, c'est un beau poisson d'avril.
Une blague aussi hein, pour Christophe qui trouve cette aide totalement imperceptible.
C'est 15 centimes qu'on gagne peut-être un instant, mais derrière, bon, on en prend 30 dans la tronche. Donc.
Sur une autre pompe, Cédric semble lui plus décontracté en faisant son plein. Et pour cause, il roule au GPL depuis une dizaine d'années.
À l'époque, personne ne voulait de ça et j'ai bien fait de l'acheter parce que finalement, je fais pas mal d'économies. J'ai une autre voiture au diesel, mais je roule même plus avec. Elle est dans le garage, ça va être que pour partir en vacances.
Daniel, lui, n'a que sa voiture diesel pour aller travailler. Du coup, cet artisan peintre a préféré raccourcir son rayon d'action.
Je limite les chantiers les plus éloignés.
Vous répercutez sur les clients, par exemple, le prix
du... Pas pour l'instant, parce que c'est des devis que j'ai fait il y a plus d'un an. Je tire sur mes marges, donc je fais un petit peu plus d'heures et puis voilà, c'est comme ça qu'on y arrive.
Mais beaucoup n'y arrivent plus désormais, car au-delà du carburant, l'inflation touche bien d'autres produits.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. L'aide gouvernementale est bien là, mais avec cette nouvelle flambée à la pompe, eh bien c'est comme si elle n'existait pas. La perspective d'un embargo européen sur le pétrole russe fait grimper les cours. L'effet se ressent aussi sur le gaz et l'électricité, bien qu'on profite là encore d'un bouclier tarifaire. L'exécutif s'inquiète pour les prochains mois. Carole Ferry, est-ce que cette situation est tenable ?
Alors ça, effectivement, c'est toute la question. Aujourd'hui, nous avons en effet en France un gel des tarifs sur le gaz, un plafonnement de la hausse de l'électricité et puis cette fameuse aide sur les carburants prévue jusqu'au 31 juillet. Des mesures de protection du pouvoir d'achat qui ont été prises pour une période provisoire, le temps de la crise. Sauf qu'on le voit bien, ce provisoire est parti pour durer. Et pendant ce temps, eh bien, la facture s'alourdit. On est déjà à plus de 26 milliards d'euros de coûts pour les finances publiques. Et c'est loin d'être terminé, puisque l'INSEE prévoit une inflation à 5,4% au mois de juin. Elle atteindrait 7% sans ce bouclier tarifaire. Et selon nos informations, l'Élysée s'inquiète même d'une inflation à 10% d'ici Noël prochain. C'est vraiment la question qui ronge les esprits actuellement. Alors, est-ce que c'est tenable ? Eh bien, très difficilement. C'est pour ça que la loi pouvoir d'achat devrait proposer des aides plus ciblées, notamment sur les carburants. Mais qui dit plus ciblée dit aussi plus compliqué. Une chose est sûre, le défi s'annonce extrêmement difficile à relever.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Les législatives approchent. On vote dans un mois. Sans plus attendre, Emmanuel Macron est allé devant ses troupes ce mardi pour lancer la campagne de la majorité présidentielle avec, bien sûr, l'objectif de la conserver dans la prochaine Assemblée. La plupart des candidats macronistes étaient donc réunis en séminaire aujourd'hui à Aubervilliers, près de Paris. À eux tous, le message du président est clair. Arthur Delaborde, mobilisation.
Emmanuel Macron a donné ce soir le coup d'envoi de la campagne des législatives. La presse n'a pas été autorisée à assister à sa prise de parole. Mais selon son entourage, le chef de l'État a appelé les candidats qu'il soutienne au combat, comme l'explique la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.
Il nous a mobilisés, il nous a motivés et il nous a dit que maintenant, d'une certaine manière, c'était à nous de jouer. Il nous a rappelé que nous sommes ceux qui avons un projet clair et un projet positif pour la France et pas l'alliance d'extrême gauche qui est finalement un projet complet. complètement irréaliste et dangereux pour le pays.
Le président a aussi lancé un appel à l'unité des différentes sensibilités de sa majorité, La République En Marche, le Modem et Horizon. Tous les candidats réunis sous la bannière commune Ensemble étaient donc réunis pour une journée de formation. Ils ont suivi des ateliers animés par des cadres de la majorité, centrés sur le programme à défendre et les stratégies de campagne et de communication. Ils ont également pu effectuer des séances photos qui vont servir à faire leur affiche de campagne, sur lesquelles beaucoup ont fait le choix d'apparaître aux côtés d'Emmanuel Macron.
Arthur Delaborde. Ça tangue pendant ce temps-là à bord de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Plusieurs circonscriptions sont l'objet de tiraillements entre les différentes composantes de l'Union de la gauche quant à savoir qui sera candidat. À Vénissieux, par exemple, dans le Rhône, eh bien là, le couvercle a sauté. L'insoumis Taha Bouafs renonce finalement à se présenter. Les communistes poussent de leur côté leur propre candidate. En tout cas, l'abandon de Taha Bouafs ne règle en rien la situation locale, Victor Chabert.
Oui, le journaliste militant est très controversé. Il a notamment été condamné pour avoir traité la policière Linda Kebab d'arabe de service. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, demandait hier à la France Insoumise de revoir l'investiture de Taha Bouafs et annoncer son soutien à la candidature dissidente de la maire communiste de Vénissieux, Michel Picard. Maintenant que Taha Bouafs s'est retiré, les communistes veulent que leur candidate, Michel Picard, soit la candidate de l'Union, de la NUPES, et elle-même se considère comme seule légitime.
J'ai une campagne qui est lancée depuis janvier. Nous avons fait un meeting de lancement de campagne la semaine dernière avec plus de 300 personnes. La campagne, elle est dynamique, elle est lancée. Et là, maintenant, on nous dit nous, on veut vous mettre quelqu'un, on ne veut pas vous. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, effectivement, il y a un rassemblement autour de ma candidature et j'espère que la raison va totalement l'emporter.
Mais dans la Corse, cette circonscription est réservée aux insoumis, d'où cette réponse au vitriol de Manuel Bompard, négociateur en chef de LFI. Ce n'est pas Fabien Roussel qui va choisir les candidats de la France insoumise et si les communistes ne le soutiennent pas, ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas l'accord global. En réalité, les insoumis n'ont pas d'autre choix que de tenir face aux communistes à Vénissieux. Lâcher, ce serait ouvrir la porte à des contestations pour renégocier localement tous les cas litigieux, avec le risque de voir la NUPES se disloquer.
Victor Chabert. La Cour de justice de la République demande un procès contre Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupond-Moretti qui est soupçonné d'avoir profité de son rang de ministre pour régler des comptes avec des magistrats.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
J'en viens maintenant à la situation en Ukraine. La directrice du renseignement américain, Avril Haines, vient de dévoiler ce qu'elle croit savoir des intentions de Vladimir Poutine. Le président russe veut faire la guerre à l'Ukraine sur le temps long. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Vladimir Poutine verrait beaucoup plus grand que la seule prise de l'Est ukrainien.
Oui, le repositionnement des troupes russes dans le Donbass n'est que temporaire. Selon Avril Haines, le Kremlin regarde bien plus à l'ouest.
Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine. Il a l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
Après avoir établi une zone tampon dans le Donbass, Vladimir Poutine compterait encercler l'armée ukrainienne sur le front oriental, contrôler la région de Kherson afin d'établir une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée. Et enfin, prolonger ce territoire vers l'ouest, vers Odessa et la Transnistrie, région sécessionniste de Moldavie. Un dernier objectif que Washington estime impossible à concrétiser sans une plus grande mobilisation des réservistes russes. Mais pour Avril Haines, il est de plus en plus probable de voir Vladimir Poutine déclarer la loi martiale en Russie. Et le Kremlin va continuer d'agiter la menace nucléaire.
Si les États-Unis ignorent ces menaces, Poutine peut être tenté de signaler à Washington le danger élevé de son soutien à l'Ukraine en autorisant un exercice nucléaire de grande envergure. Nous continuons de penser que le président Poutine utiliserait l'arme nucléaire que s'il percevait une menace existentielle pour le régime russe.
Une manière de dissuader l'Occident alors que les États-Unis estiment qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de chemin de négociation viable entre l'Ukraine et la Russie.
Alexis Guilleux, New York pour Europe 1. Le Congrès américain va au-delà du souhait de Joe Biden et s'apprête à débloquer une enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le premier vote pourrait intervenir aujourd'hui même. Cette somme doit permettre à Kiev de s'équiper en blindés et en défense antiaérienne et de combattre les cyberattaques. Voilà qui n'est pas passé inaperçu dans le protocole immuable de la couronne britannique. Pour la première fois en plus de 60 ans, Elisabeth II était absente aujourd'hui pour donner lecture du discours du trône. La reine d'Angleterre a 96 ans, ses médecins lui ont déconseillé d'honorer ce rendez-vous, Anaïs Cordoba. C'est donc son fils, le prince Charles qui s'en est chargé à sa place.
Oui, c'est lui qui a prononcé le discours devant la Chambre des Lords. Symboliquement, la place habituellement réservée à la reine est restée vide. Sa couronne a été posée sur l'estrade près du prince Charles. Après avoir lu le programme du gouvernement pour l'année à venir, il a évoqué sa mère à la fin du discours.
In this year of the Platinum Jubilee,
en cette année du jubilé de platine, Sa Majesté attend avec impatience les célébrations qui auront lieu à travers le Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. Sa Majesté prie pour que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Alors depuis plusieurs années, on constate une transition progressive. Le prince de Galles représente la reine à l'étranger et lors de nombreux événements, mais c'est la première fois qu'il assume une fonction constitutionnelle aussi importante. Les experts royaux parlent d'un tournant historique dans le règne d'Elisabeth II. Pour certains, c'est le début d'une régence qui ne dit pas son nom. Le palais, lui, a rappelé que la reine comptait honorer le reste de ses engagements pour la semaine, comme pour signifier qu'elle assure toujours son rôle de monarque.
Anaïs Cordoba, Londres pour Europe 1. On est très nombreux, je crois, à s'être dit cela un jour. Quelle cruauté les révisions du bac quand il fait aussi beau dehors comme aujourd'hui. Chacun sa méthode, en tout cas. Plus de 520 000 élèves de terminale n'ont pas trop intérêt à sortir trop tard ce soir. Ils passent demain leurs deux épreuves de spécialité du bac. Elles font partie de la réforme du bac et elles n'ont d'ailleurs encore jamais été organisées sous cette forme, Louise Salé, à cause bien sûr de la crise du Covid.
Oui, c'est le contrôle continu qui a primé ces deux dernières années, mais cette fois-ci, les deux spécialités seront bien évaluées sur table. Ces deux matières sont choisies par les lycéens parmi des cours qui ne font pas partie du tronc commun, comme les mathématiques par exemple, et c'est le cas pour près de 140 000 candidats. Mais il y a aussi l'histoire géo, les langues, les sciences économiques et sociales, la physique et j'en passe. Chacune de ces épreuves a un fort coefficient, 16% de la note finale. Et c'est une spécificité, cette année l'examen a lieu en mai. Il devait se tenir en mars mais la date a été décalée en raison des absences de professeurs et des élèves cet hiver liées au Covid-19. Les notes de ces épreuves de spécialité ne seront donc pas comptabilisées dans Parcoursup, le site dédié aux admissions dans l'enseignement supérieur.
Louise Salé, un père de famille a été agressé au couteau devant un collège catholique. Ça s'est passé en fin d'après-midi à Marseille. L'agresseur a été interpellé. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a remercié sur Twitter les services de police et les passants pour leur réaction rapide. La victime est un médecin militaire. Selon nos informations, rien ne permet à ce stade d'envisager la piste terroriste. On reste à Marseille, car c'est la fin du cauchemar pour les locataires d'une résidence privée des quartiers nord. Depuis des mois, les habitants de cet immeuble vivaient au quotidien dans la peur. Un ensemble voué à la destruction et encore habité par quelques familles était miné par le squat et la délinquance. Des sans-papiers, principalement nigérians, se déchiraient entre gangs ultra-violents sur fond de trafic de drogue jusqu'à ce mardi matin où une vaste opération de police a permis d'évacuer une centaine de squatteurs. Reportage à Marseille, Stéphane Burgat.
Des télés, des matelas. Au pied du bloc, l'évacuation se fait dans un climat électrique qui contraste avec le soulagement des riverains.
Je suis rassuré. Ah ouais, vous pouvez pas savoir à quel point je suis rassuré. Moi, j'ai un enfant. J'ai très, 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 très peur qu'il arrive quoi que ce soit. Moi, j'ai peur qu'il rentre chez moi. J'ai installé des caméras, que j'ai barricadé toutes mes fenêtres. Au quotidien, c'est pesant.
Welcome to the dark side. Entrer dans le côté obscur, le tag à l'entrée d'un des escaliers résume ce quotidien de violence.
C'est infernal. Vous vous rendez compte comment on habite ? On est escorté toute la journée, ils sont derrière nous, ils nous surveillent. Les docteurs, ils rentrent plus. On était coincés dans l'immeuble, nous, alors. Pour le 1er mai, là, ils se sont battus à coups de machette, là.
Résultat, beaucoup ici ont fui, à l'image de ce couple de retraités propriétaires d'une villa voisine.
On est chassés de chez nous et on a bradé notre maison la semaine dernière. On l'a vendue à moitié prix.
Moi, c'est un crève. Et à cause de quoi ? Moi, je suis depuis 1962 dans cette maison.
Et pour éviter un retour des squatteurs, les appartements seront murés et dévitalisés avec un retrait des raccordements d'électricité et de plomberie. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Emmanuel Macron interpelle le président chinois Xi Jinping sur le sort des Français expatriés en Chine. Il lui demande de tenir compte de leurs préoccupations alors que les autorités chinoises imposent à leur population des restrictions anti-Covid draconiennes. Emmanuel Macron demande en particulier de garantir les liaisons aériennes avec la France et de ne pas séparer les enfants de leurs parents. Y aura-t-il du foie gras à Noël? La production, on le sait, va chuter. Les prix vont grimper cette année. On connaît le responsable. La grippe aviaire a décimé les élevages. 16 millions de volailles abattues au cours des 6 derniers mois. C'est sans précédent. Il y a un espoir pour s'en relever. Deux candidats vaccins contre la grippe aviaire sont actuellement expérimentés. Marie-Pierre P est la directrice du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.
Démarrer l'expérimentation de ces deux candidats vaccins représente une avancée que nous attendions de nos voeux, parce qu'effectivement, malgré tous les efforts qui ont été déployés pour se protéger contre l'influenza aviaire, nous avons été à nouveau victimes, et dans une dimension totalement inédite et exceptionnelle, de cette maladie qui a décimé nos élevages. Donc cette expérimentation qui va permettre d'être la dernière phase de mise au point des vaccins pour qu'ils puissent être utilisés si les essais sont concluants, vont nous permettre d'avoir un outil complémentaire pour mieux défendre et mieux protéger nos animaux.
Marie-Pierre P au micro de Yasmina Katou. Il faudra donc attendre au mieux l'année prochaine pour la commercialisation éventuelle d'un vaccin contre la grippe aviaire. L'UEFA donne son feu vert à une Ligue des champions. Nouvelle formule, elle entrera en vigueur en 2024. L'idée est de démultiplier le nombre de matchs malgré un calendrier déjà chargé. L'UEFA cherche ainsi à séduire les diffuseurs, à donner plus de spectacles au public et bien sûr à augmenter les recettes des clubs. Cyril Delamont-Henry.
Oui, avec cette réforme, il y aura 64 matchs de plus de Ligue des Champions par saison. Fini la phase de groupe, à la place, un mini-championnat en 8 journées avec 36 formations engagées au lieu de 32 actuellement. Les 8 premières équipes se qualifieront directement pour les 8e de finale. Celles qui se classeront de la 9e à la 24e place passeront par des barrages. Les autres seront éliminées. Les rencontres continueront de se dérouler en milieu de semaine. La France n'est pas oubliée. Dès 2024, 3 clubs français seront directement qualifiés en Ligue des Champions au lieu de 2 actuellement. Enfin, 2 places additionnelles seront attribuées aux 2 meilleures nations européennes sur la saison précédente. Dans un communiqué, le président de l'UEFA se félicite d'avoir trouvé un consensus. La formule choisie est harmonieuse et va augmenter l'attrait et la popularité de nos compétitions, explique Alexander Seferin. Avec cette réforme, l'UEFA espère couper définitivement l'herbe sous le pied au club mutin qui avait il y a un an présenté un projet controversé de Super League.
Cyril Delamont-Henry, le temps pour demain. Marlène Duret, ce sera soleil et chaleur encore une fois, avec un bémol pour quelques régions du Nord-Ouest quand même.
Absolument Alexandre, ciel couvert, c'est une perturbation en fait, hein, qui va apporter beaucoup de nuages, très peu de pluie, quelques gouttes possibles en Bretagne le matin, peut-être aussi vers le Cotentin. Et puis ces nuages atteindront au fil des heures les Pays de la Loire. Près des côtes aquitaines et charentaises, on va débuter la journée sous la grisaille également. Ce sont des entrées maritimes qui vont s'enfoncer un petit peu plus dans la vallée de la Garonne et notamment dans le Gers. Elles vont disparaître assez rapidement hein, en cours de matinée. Idem entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, sur les côtes du Roussillon. Donc il va falloir patienter quelques heures pour voir le soleil. Et sur le reste du pays, vous l'avez dit, le temps s'annonce ensoleillé, chaud. Toujours ce petit risque d'averse sur les Alpes du Sud et la Corse. Un petit peu de vent, un vent de sud dans la vallée du Rhône, jusqu'au Val de Saône. Et puis le vent aussi sur la moitié nord du pays qui peut un petit peu atténuer les températures. C'est parfois agréable hein, quand il fait chaud parce que c'est un vent de sud-ouest, il n'est pas froid. Alors à propos de chaleur, on a un pic là, hein, entre la Bourgogne et le Piémont pyrénéen demain. En passant par la région centre avec localement jusqu'à 32 degrés, notamment à Auch et Cahors. Il fera 31 à Moulins dans l'Allier, 31 également à Auxerre, à Agen, 30 à Bourges et Lyon, Strasbourg, 30 degrés.
C'est le mois d'août là.
Pratiquement, c'est estival, hein, c'est l'été. 29 à Troyes, Valence, Vittel, 27 à Paris, 26 à Poitiers, 25 à Argelès-sur-Mer, 23 à Angers, 22 à Rennes, 21 à Bonifacio dans le sud de la Corse, 20 à Saint-Jean-de-Luz et 18 à Lorient sous les nuages, forcément.
Comment ça, forcément?
Le soleil, il tape plus hein, quand il se montre et puis quand il se cache.
Je vous taquine, Marlène. Merci.
Vous êtes breton, non?
Un tout petit peu. Allez, on va dire ça comme ça. Merci, Marlène Duret. Nouveau point
météo. On salue nos amis les Bretons.
Exactement. Avec vous à minuit sur Europe 1. On marque une courte pause. Dans un instant, on retrouve Top à Wall Street. Et l'invité éco ce soir, Cédric Losda, le patron de KFC France.
Europe 1.
Alexandre Lemaire. Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, la séance a été hésitante à Wall Street et après trois séances de forte baisse, le Nasdaq remonte la pente, mais pas le Dow Jones.
Oui, ça a été mouvementé et finalement c'est du rouge pour le Dow Jones, moins 0,27%, 32 160 points, plus 1%, c'est mieux pour le Nasdaq après une chute de plus de 4% hier. L'ambiance est très lourde à Wall Street avec beaucoup de dangers, des taux d'intérêt élevés, une économie chinoise au ralenti, une forte inflation, la guerre en Ukraine. Alors le secteur de la tech a tenté une remontée. Apple gagne 1,6%, Meta plus 0,7%, Amazon plus 0,2%. En revanche, c'est du rouge pour Twitter, moins 1,5%, avec Elon Musk qui fait encore parler de lui, le patron de Tesla qui va racheter le réseau social, annonce qu'il veut annuler l'exclusion de Donald Trump. L'ancien président américain avait été banni de Twitter en janvier 2021 après l'assaut du Capitole à Washington par ses partisans. Et pour Elon Musk, c'était une décision moralement mauvaise et complètement stupide.
Pas d'embellie pour le pétrole, toujours plombé par les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise.
Oui, les cours avaient déjà plongé de plus de 6% hier. Le WTI perd encore 2,3%, 100,69 sur le NYMEX. Les confinements prolongés en Chine pourraient peser sur la demande. Et puis l'Union européenne peine à s'accorder sur un embargo sur le pétrole russe. Ça pèse sur le baril. À côté devise, l'euro 7,02% face au billet vert, 1,0536. Et puis le bitcoin a subi un accès de panique. Il est tombé brièvement sous la barre des 30 000 dollars en matinée avant de se ressaisir un peu autour de 31 266 dollars ce soir. Les crypto-monnaies ont dégringolé ces derniers jours, victimes de l'aversion générale aux actifs risqués.
Le CAC 40 a repris un peu de terrain après une chute de 6% tout de même en 4 séances.
Oui, un rebond modeste pour le CAC 40. Il reprend 0,5%, 6 116 points. L'élan du début de séance, il a été freiné par les hésitations de Wall Street. Du côté des valeurs, on a une forte hausse pour Trigano. Le constructeur de véhicules de loisirs a publié des résultats trimestriels solides malgré les difficultés d'approvisionnement. L'action monte de 3,7%. Du vert aussi pour Airbus, le géant aéronautique, plus 0,8% après ses chiffres mensuels de livraison et de commandes. Ailleurs, en Europe, les marchés se sont repris aujourd'hui. Gain de plus de 1% pour Francfort et pour Milan, plus 0,4% pour Londres. Madrid est stable et le CAC 40 reprend 0,5%, 6 116 points ce soir.
Merci Carl Lemaître.
Alexandre Lemaire sur Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente l'Invité Éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
Avec nous ce soir en studio, Cédric Losda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de KFC France. Alors on va parler de vos nouveaux projets pour les restaurants Kentucky Fried Chicken. Au Québec d'ailleurs on dit PFK, je crois.
Absolument.
Poulet frit du Kentucky.
Poulet frit, oui.
Ça c'est pas au programme en France déjà.
Non.
On peut déjà écarter. KFC en France aujourd'hui c'est quoi? C'est quasiment 300 restaurants, c'est ça sur tout le territoire.
C'est ça, donc KFC, ça fait 30 ans qu'on est en France, 30 ans, 300 restaurants, c'est 617 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2021.
Et votre ambition, c'est de multiplier ce chiffre, ce nombre d'implantations, par deux.
Par deux, donc d'arriver à 600 dans les 5 années qui arrivent.
Comment vous vous y prenez?
Alors, il va falloir recruter des emplois.
Mais oui,
surtout,
parce qu'on n'arrête pas de dire la restauration manque de bras.
Oui, et recruter, trouver des emplacements et recruter des franchisés. Aujourd'hui, on cherche, j'en profite même pour partager qu'on cherche des franchisés, des investisseurs.
Ah,
pour
vous lancez un appel?
Je lance un appel, voilà, tout de suite.
Donc vous cherchez quel type de profil?
Donc c'est des franchisés, des investisseurs qui vont pouvoir ouvrir 10, 20, 30, 50 KFC dans les années à venir.
Donc c'est essentiellement des managers que vous cherchez pour vos prochains restaurants?
Alors c'est plus que des managers, c'est des gens qui ont probablement déjà eu une expérience entrepreneuriale, qui apportent des compétences, qui apportent déjà des compétences, une expérience, un peu de capital aussi.
En cuisine, en salle, vous recherchez des bras également?
Surtout en retail. Et puis, bien sûr, on va recruter dans nos restaurants. Une ouverture, c'est 40 emplois.
Ça veut dire, pour avoir des ambitions, que vous avez plutôt bien résisté à la crise sanitaire chez KFC?
Oui. Alors, la restauration a souffert. On a quand même passé deux années assez éprouvantes à vivre au gré des confinements. Mais surtout pour la restauration, c'était la fermeture des salles, les couvre-feux. Mais aujourd'hui, on est extrêmement optimiste. L'enseigne se porte bien. On a terminé 2021 en croissance de 20% par rapport à 2020.
Oui.
Et puis le début d'année là est très très bon. Alors forcément l'année dernière, au premier trimestre, il y avait encore des mesures. Début d'année très bon. Nous on se compare toujours par rapport à 2019, ce qui reste, ça paraît loin, mais qui reste une année référence. On est en croissance de 5% par rapport à 2019.
Cette crise du Covid, là, elle a fait exploser notamment ce qu'on appelle les dark kitchens, hein, ces restaurants sans salle qui ne font que de la livraison. Vous voyez justement chez KFC une évolution des usages du côté des consommateurs, une évolution des demandes, des attentes?
Oui, clairement. Alors, on dit souvent que la crise du Covid a accéléré certaines tendances. En pleine crise du Covid, forcément, il y a moins de transactions en salle avec l'explosion de la livraison à domicile. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, la livraison à la vente emportée reste importante, même si on commence à voir les gens qui reviennent en salle. Donc oui, les canaux évoluent, mais je pense que c'est ça l'actualité, c'est ça le futur, c'est de s'adapter sans cesse à la demande des consommateurs.
Alors, projet très important aussi chez Kentucky Fried Chicken, deux fois plus de restaurants KFC dans les 5 ans, on l'a dit, et deux fois plus de poulets français dans votre chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est une réalité déjà ou c'est aussi un
objectif ? C'est une réalité, là, depuis le mois de mai. Donc je le disais, ça fait 30 ans qu'on est en France, on veut aussi... renforcer notre présence, notre engagement en France. Alors, vous le disiez, hein, ça passe par doubler l'approvisionnement français. Donc, on va passer de 20 à 40% d'approvisionnement français sur le poulet. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos consommateurs? Ça veut dire que l'ensemble de nos burgers seront faits avec des filets français. Mmh. Et ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, on travaille désormais avec plus de 500 éleveurs en France sur la filière.
On a entendu dans le journal sur Europe 1 l'inquiétude de la filière, justement, face à la grippe aviaire, hein, qui bat des records. 16 millions de volailles abattues dans les 6 derniers mois. Comment vous y prenez dans un contexte pareil pour doubler d'un seul coup votre approvisionnement en poulet français?
Bon, écoutez, on a eu de la chance jusqu'ici parce que KFC n'a pas été impacté. La crise était surtout dans le sud-ouest et un peu moins dans l'ouest. Mais c'est la chance d'avoir des partenariats de long terme avec notre prestataire. On a fait un partenariat avec SNV, qui est une filière du groupe LDC, un grand volailler français, qui aujourd'hui nous sécurise sur nos approvisionnements. Et c'est en travaillant, comme je le disais, avec plus de 500 éleveurs, ça nous permet de faire face à des crises sanitaires, si toutefois les approvisionnements se tendent.
Les consommateurs sont beaucoup plus attentifs, hein, désormais à la question notamment du bien-être animal. Est-ce que là, vous leur offrez une certaine transparence, certaines garanties par rapport aux produits que vous proposez chez KFC?
C'est ça. Je pense que malgré le contexte, nous, on reste une entreprise qui se développe et on reste une entreprise engagée. Nous avons fait une grande annonce sur le bien-être animal l'année dernière. En plein milieu de la crise, en signant une charte, en nous engageant sur le bien-être animal, une charte qui a été faite par plus de 30 ONG qui reprend des critères de bien-être animal. Et quand on travaille avec des nouveaux fournisseurs, ils s'engagent aussi sur cette roadmap de critères.
Alors, une initiative que vous avez prise, je crois, après McDonald's, hein, dans le secteur de la restauration rapide, c'est la mise en place du Nutri-Score.
Absolument.
Hein, sur tous vos produits. C'est cette petite réglette, hein, qui va de la lettre A à la lettre E et qui permet justement de visualiser la valeur nutritionnelle des nuggets, des burgers.
C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que le consommateur a accès au Nutri-Score au moment de sa prise de commande. Alors, bien sûr, c'est disponible sur le site internet, mais aussi sur la borne. Vous pouvez voir. Je tiens à dire que 70% de notre gamme a un score entre A et C. On est plutôt très satisfait.
Plutôt vertueux.
Et l'autre chose que les gens savent peut-être moins, c'est que nous, c'est un outil qu'on utilise en interne. Aujourd'hui, quand on développe un nouveau produit, une nouvelle recette, on va calculer son Nutri-Score.
C'est-à-dire pour améliorer la recette?
Absolument. La gamme existante et les nouveaux produits, on va calculer le Nutri-Score avant de lancer un produit pour l'améliorer du mieux possible.
Alors, ils sont où les leviers? C'est quoi? C'est le sel? C'est le gras?
Alors, ces deux choses, ça va être réduire certains éléments comme le sel, le gras, mais ça va être remonter d'autres comme les fibres ou les légumes. Il faut savoir que le poulet est une protéine qui est très intéressante puisqu'elle est 4 fois moins grasse que le bœuf. Mm-hmm. C'est aussi la protéine qui est... la plus en croissance en France, donc on est sur un très bon secteur.
Quand on parle de gras, on parle d'huile. Avec la pénurie actuelle d'huile de tournesol, comment vous faites justement avec cette pénurie liée à la guerre en Ukraine?
Alors, nous, aujourd'hui, on n'a pas de pénurie. Il y a de l'inflation. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement. C'est la chance d'avoir de nouveau des contrats, des partenaires qui sont avec nous sur le long terme. Je tiens quand même à préciser qu'aujourd'hui, en fait, l'ensemble du secteur vit encore sur la récolte de l'année dernière. Donc, il n'y a pas de pénurie... chez KFC France.
Pas d'augmentation à venir des tarifs de vos menus?
Alors, très forte inflation, je pense que je ne suis pas le seul à le dire sur votre antenne. Oui. Juste pour vous citer quelques chiffres, nous on voit 17% d'augmentation sur les matières premières. Ce chiffre cache beaucoup de disparités, hein, c'est plus de 50% sur l'huile, plus de 50% sur la farine. Le coût du travail aussi augmente, le coût de l'énergie. Donc, voilà. On a un réseau de franchises, ce sont les franchisés qui fixent leurs prix. Mmh. On donne une recommandation, nous, je suis obligé de lui dire, on a noté quand même une augmentation de 4,2% au mois de mai des prix par rapport à l'année dernière. ce qui reste en dessous de la restauration et de l'inflation.
Merci, merci Cédric Losda, directeur général de KFC France, les restaurants Kentucky Fried Chicken.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Un rapide coup d'œil aux une de la presse. Demain, Macron face au casse-tête de l'après-Castex. C'est la une du Figaro. Depuis sa réélection, le chef de l'État a passé beaucoup de temps à structurer sa majorité. Il est l'heure désormais de choisir un nouveau Premier ministre. Réponse pas avant vendredi soir. Le manque de pluie semble inspirer les quotidiens. Festival du jeu de mots demain. La une de Libération, la sécheresse arrive au boulot. Haut comme un verre d'eau. Pluviométrie et nappe phréatique en Berne. Forte chaleur en perspective. 15 départements français connaissent déjà des situations d'alerte préoccupantes pour les récoltes et la biodiversité. Je vous laisse aussi apprécier ce jeu de mots à la une de 20 minutes. Sec quoi les solutions? Avec l'exemple du village de Jouc dans les Bouches-du-Rhône qui cherche une sortie de crise à la sécheresse. 22h30, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Vous alliez m'appeler comment là maintenant?
Je ne sais pas, je m'assurais que votre micro était ouvert.
J'ai senti que je vous inspirais quelque chose, une espèce de onomatopée.
Vous venez de prendre la place du patron de KFC France, Olivier Delacroix.
Je sens le siège tout chaud, voilà. Et c'est un véritable honneur pour moi.
Voilà. Hein? Bon, avez-vous arrosé votre jardin, Olivier, en cette année?
Exactement. J'ai arrosé mon jardin, mais tout doucement avec des verres, parce qu'il faut faire attention à l'eau.
Exactement, ne pas la gaspiller.
Et je n'ai arrosé... vous savez, les plantes ont besoin d'un verre d'eau et pas de les
sur... d'être noyées.
Voilà. Donc, et puis, les végétaux sont très résistants, voyez-vous. Donc avec un peu d'eau, ils rationnent leur eau. Vous voyez, c'est intelligent.
Ils sont résilients.
Ils sont résilients. Il faudrait bien que les humains prennent l'exemple de tous ces végétaux qui non seulement ont une grande humilité dans leur consommation d'eau, mais qui respectent le tout.
Eh bien, le message est entendu.
Je ne suis pas certain d'avoir été très précis.
Si, c'est très clair. C'est très clair.
Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on vous retrouve tout à l'heure pour un petit point.
Tout à l'heure,
nos passes d'antenne sont toujours hallucinants. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais bon. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.